marche du monde.
C'était le premier mouvement contestataire par sa profondeur, par ses revendications et par sa continuité dans l'histoire moderne de la Tunisie. Depuis Bourguiba jusqu'à aujourd'hui, c'était le premier test pour le régime de Ben Ali.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Tout commence le 5 janvier 2008 à Redeyef, près de la frontière algérienne. Nous sommes dans le bassin minier de Gafsa, à 400 km au sud-ouest de Tunis. De jeunes chômeurs occupent le siège régional de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Ils contestent les résultats jugés frauduleux du concours d'embauche de la compagnie du phosphate de Gafsa. Le mouvement s'étend rapidement. Ouvriers, chômeurs, femmes et lycéens multiplient les rassemblements et les grèves sur fond de grande pauvreté et de flambée des prix. Pour Christophe Cotteret, le réalisateur du documentaire « Démocratie année zéro », la révolte de Redeyef est l'acte de naissance de la révolution tunisienne. « Démocratie année zéro » sort le 5 novembre au cinéma en France et en avant-première dans la marche du monde.
1000 candidats pour 80 postes attribués frauduleusement allaient mettre le feu aux poudres. Les manifestants se structurent alors grâce aux syndicalistes locaux de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, l'unique et très puissant syndicat du pays. Et à la tête de la section de Redeyef, Hanan Haji, bientôt surnommé le lion du bassin minier, pour sa pugnacité face au pouvoir.
Les jeunes ont commencé à protester. La revendication la plus importante, c'était annuler les résultats et refaire le concours sur des bases transparentes et équitables. C'était facile à faire pour le pouvoir et pour la compagnie de phosphate. Si le concours avait été refait à ce moment-là, l'histoire aurait marché autrement.
La voix de Hanan Haji, le lion du bassin minier dans la marche du monde, extrait du documentaire « Démocratie, année zéro » de Christophe Cotteret. Bonjour, monsieur le réalisateur.
Bonjour.
Et merci de nous faire partager la bande-son de votre film en avant-première sur RFI. Et j'aimerais tout d'abord savoir à quel moment vous avez compris l'importance de la révolte de Redeyef dans cette révolution tunisienne.
J'ai eu beaucoup de chance en fait. Je suis arrivé pour commencer à tourner les premières images du film juste un petit peu avant Casbah 1, donc on est juste après la chute de Ben Ali, je crois autour du 17 ou du 18 janvier. Et un des prisonniers politiques les plus célèbres de Tunisie, hélas, à ce moment-là, était Farem Boukadous, donc qui a eu l'excellente idée, et qui en même temps l'a payé très cher, de faire parvenir les images de cette révolte de 2008 qui était cachée. Et je rencontre Farem Boukadous le lendemain de sa libération, tout à fait par hasard dans Tunis, et il me fait « il faut qu'on parle de ses origines, il faut qu'on parle du mouvement des mineurs, c'est de là dont tout est parti ». Et on a eu l'occasion d'en discuter, et je l'ai revu après Redeyef. Il m'a donné l'envie d'aller à Redeyef et à Gafsa.
Une révolution tunisienne dans les oreilles de notre second invité, Pierre Vermeren, historien du Maghreb contemporain et maître de conférences à Paris 1 Sorbonne. Bonjour Pierre Vermeren.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RFI. Pour votre part, à quand faites-vous remonter les origines de cette révolution tunisienne ?
On savait de manière confuse, implicite, parce qu'il y a eu une censure à la fois interne en Tunisie et internationale sur ces événements de Redeyef et du bassin minier de Gafsa. On savait qu'il y avait eu quelque chose, parce que c'était... on n'a pas vu les images, vous me direz, elles circulaient sur Internet, plus ou moins, mais disons qu'il y avait quand même eu, malgré cette circulation en interne, en infra, j'allais dire, il y a quand même eu une censure globalement qui a fait écran, et qui en même temps explique ce qui s'est passé au début de la révolution en décembre 2010, janvier 2011, parce qu'au fond, les événements, comme le montre très bien ce document, vont surgir dans une région très proche, et c'est d'autant plus cohérent historiquement qu'au XXe siècle, à l'époque française ou bien à l'époque de Bourguiba, les émeutes du pain, cette région dite centro-tribale à l'époque a toujours été le foyer de la contestation, et a fortiori des syndicats, du fait qu'il y a le phosphate.
Alors revenons sur ce laboratoire qu'a été RDIF, Christophe Cotteret. Il faut d'abord rappeler qu'à RDIF, on a essentiellement une entreprise, c'est la CPG, la compagnie du phosphate de GAFSA. On a un seul syndicat autorisé, c'est l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Et on a un seul parti, le RCD, le Rassemblement Constitutionnel, et quelques familles dominantes. Et à eux tous, ils maintiennent en quelque sorte un équilibre en redistribuant les bénéfices générés par le phosphate. Mais la diminution des ressources et la généralisation de la corruption, alors que le cours international du phosphate flambe, ont rompu les équilibres. Est-ce que c'est bien d'écrire la situation explosive de RDIF, Christophe Cotteret, que de dire qu'il y a une rupture d'équilibre d'un système où finalement on se redistribue entre soi les bénéfices générés par le phosphate?
Il y a plusieurs choses, c'est que les gens de RDIF souffrent de plusieurs éléments, c'est-à-dire des éléments objectivement sur lesquels ils doivent se battre, c'est-à-dire que on sait que le phosphate, quand il est extrait, doit être nettoyé, que ça crée une pollution des sols, que faire de cette pollution, où le nettoyer, etc. Donc c'est une vraie question de point de vue écologique. Sur cette région, sur la ville de RDIF, les terrains appartiennent à la compagnie de phosphate de GAFSA. Les habitants ne peuvent pas acheter leur maison. Donc là aussi, c'était une revendication. Donc il y avait un certain nombre de revendications déjà depuis... évoquer les émeutes du pain, effectivement, depuis des années, il y avait des revendications de cette nature. Là, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'à un moment, il y a un problème très concrètement dans le travail. C'est-à-dire que les postes de mineurs sont attribués non pas aux personnes les plus compétentes, mais aux personnes qui sont le plus proches du parti RCD. Quand vous savez que c'est la seule, quasiment, l'unique source de revenus pour les habitants de la région, vous comprenez le problème.
Pierre Vermeuren, RDIF, c'est 30% de chômeurs, presque deux fois plus que le niveau national en Tunisie. Est-ce que, à l'image de ce partage des richesses, de ces petits arrangements entre syndicats uniques, partis uniques et entreprises régionales des richesses du phosphate, le système tunisien était fondé comme ça sur une espèce d'échange entre allégeance et contrepartie?
Oui, d'une certaine manière, mais vous voyez, il faut être très prudent dans l'UGTT, parce qu'on voit très bien dans le documentaire qu'elle est l'âme, elle est le fer forgé de la révolution. Alors, le pouvoir a toujours essayé de récupérer l'UGTT, de la maintenir, notamment en nommant des chefs qui étaient ses obligés, mais il n'a jamais réussi à pénétrer, à descendre dans l'appareil. Et l'appareil, c'est-à-dire les cadres intermédiaires qui vont diriger les émeutes de RDIF, des champs de phosphate, puis de Kasserine, même de Tunis, et qui ont accompagné le processus constitutionnel par la suite, ces échelons intermédiaires sont restés finalement dans une culture syndicale, j'allais dire presque syndicale révolutionnaire. Ils ont tenu bon par différentes tactiques de réunions, toujours accompagnées d'une convivialité syndicale particulière qui leur permettait de contrôler, de savoir qui assistait à ces réunions et de verrouiller, y compris au parti. Alors quand l'échelon supérieur a perdu le contrôle, le jeu a été ouvert pour les ouvriers et leur encadrement, et c'est ça qui moi m'a énormément frappé dans le film. Ça m'avait déjà frappé dans le film Dégage de Mohamed Zran, c'est le fait que cette révolution, elle n'est pas née du tout du néant, mais qu'elle vient d'une culture syndicale, notamment de terrain, très efficace et très organisée, avec des têtes pensantes dont celles dont on vient de parler,
dont Anan Haji.
Et devant le drapeau de l'UGTT, ce sont les mots que le poète national Abou El Kassem Chebbi avait adressé 70 ans plus tôt aux colons français que faisait résonner Anan Haji.
Ô tyran oppresseur, ami de l'obscurité, ennemi de la vie, tu t'es moqué d'un peuple impuissant alors que ta main est maculée de son sang. Attention, attention, sous la cendre, il y a des flammes.
Anan Haji appelle les habitants de RDIF à relever la tête et à ne plus avoir peur de la répression. Même les femmes affrontent les forces de l'ordre à RDIF. Entourée de ses deux fils, Yasmina raconte son altercation avec les policiers.
Vous ne pouvez pas utiliser la force davantage. Les hommes, vous les avez emmenés. Les maisons sont vides. Il n'y a plus que les femmes. Il m'a dit de rentrer chez moi, que j'avais la langue trop pendue. Je ne voulais pas rentrer, j'étais décidée. Il m'a dit, tu vas aller en prison. J'ai répondu, je ne vaux pas plus que mes enfants. Emmène-moi en prison. J'irai sans avoir rien fait de mal. J'irai parce que je demande du pain et la liberté.
Ben Ali avait sous-estimé la détermination des révoltés. Le régime ne pouvait pas transformer une manifestation de milliers de femmes en bain de sang. Les divisions au sein du pouvoir sur l'attitude à adopter, la pression syndicale et la force populaire du mouvement allaient le forcer à reculer. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2008, c'est toute la ville de Redeyev qui allait fêter la libération des prisonniers, épuisés par les tortures subies depuis plusieurs jours.
4 morts et 26 blessés à Redeyev et l'arrestation de près de 300 habitants du bassin minier. Puis un procès, les 38 personnes considérées comme les meneuses de la révolte, dont le syndicaliste Hanan Haji, le lion du bassin minier. Écoutez maître Rada Nasraoui, avocate au procès des 38.
Tous ont eu des procès inéquitables, tous. Au départ, c'est le PV d'interrogatoire de X, à la fin, c'est Y. Il y avait des anomalies qu'on ne peut pas du tout imaginer. Hein. Ils faisaient n'importe quoi, les flics. Et la justice était là pour condamner, c'est tout. Mes clients, qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif? Toutes leurs revendications étaient légitimes. Ils veulent combattre les inégalités sociales, les injustices sociales, la corruption. Qu'est-ce qui peut être pire dans une société que la corruption, monsieur le président? Et je marquais un temps d'arrêt et ça faisait que... Il a compris.
2 à 8 ans d'emprisonnement pour les 38 révoltés de Redeyev en Tunisie en 2008. Ils seront finalement libérés un an et demi plus tard, mais surtout un procès médiatisé hors des frontières de la Tunisie. Est-ce que c'est le premier procès du régime de Ben Ali, Pierre Vermeuren?
Non, certes non. Vous savez, dans un régime policier, on est habitué au procès politique. C'est d'ailleurs ce qui a permis, pas tellement la médiatisation des procès, mais en tout cas le fait que les associations de droits de l'homme, et notamment des avocats, comme Reda Nasraoui, puissent être connus du public et puissent finalement servir de catalyseur et de porte-voix au moment de la révolution. Donc, des procès, il y en a eu, totalement inéquitables, mais disons que quand la force était du côté du régime et la peur régnait, c'était tenable. Mais c'est vrai que comme ils étaient basés sur des bases légales lamentables et que les procès étaient instruits par des ânes bâtés, eh bien, le jour où la population a osé le dire, quelque part, un mur a été franchi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le procès des 38, il a été un tournant. Mais en souterrain, hein, vous dites que ça a été médiatisé internationalement. Si peu, malheureusement.
Christophe Cotteret, c'est cela qui est nouveau à Redeyev, c'est que la population massivement, y compris les femmes, sort dans la rue, manifeste, affronte ce mur de la peur.
Et ça dure. Ce qui est incroyable, c'est que dans le contexte de l'époque, avec la répression, avec la peur, c'est qu'un village, il faut s'imaginer Redeyev, hein, physiquement. C'est, déjà, vous faites une très longue route de 4 ou 5 heures pour arriver à Gafsa, qui est une grande ville. Après, vous reprenez une heure de route vraiment dans des montagnes où on extrait le phosphate. Une lumière écrasante, souvent il fait très chaud. Et vous arrivez quasiment à la frontière algérienne et vous avez un village. Avec une capacité, effectivement, de réflexion sur la lutte syndicale, une capacité aussi de mise en perspective. Enfin, voilà, c'est un territoire très, très étonnant qu'on arrive pour la première fois de voir la qualité intellectuelle et ce qui était mis en place au niveau syndical. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, c'est pour ça que ça a duré 6 mois et c'était inimaginable pour la population tunisienne. C'est vraiment une première.
Et le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de fruits et légumes tunisien se voit confisquer sa marchandise par des policiers. C'est pas la première fois, mais c'est celle de trop. Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le feu devant la préfecture de Sidi Bouzid. Un événement déclencheur pour Aziz Amami et la jeunesse tunisienne.
Imagine des jeunes poursuivre des policiers toute la nuit. Et pour la première fois en Tunisie, on a eu droit à ce paysage magnifique des grosses voitures de la police en train de brûler. Ça a été la vidéo la plus populaire en Tunisie.
Le 25 décembre, à l'appel de plusieurs syndicalistes et cyberactivistes, les premiers manifestants allaient se rassembler à Tunis.
J'ai décidé de faire l'exemple pour mes amis Twitter et mes amis de Facebook, en disant, voilà, il y a tel et tel, moi j'y vais, qui va avec moi? J'essaie toujours de faire des commentaires pour inciter plus les gens, pour casser le cercle de la peur. Du coup, le lundi, il y avait plus de monde d'Internet, il y avait encore plus de monde.
Facebook aussi a connu un grand essor. Pendant les événements de Garça, on était 200 000 Facebookers. Récemment, on est près de 3 millions. Il suffit qu'un membre de la famille ait un compte Facebook pour que tout le monde dans la famille sache ce qui se passe sur Facebook.
Deux jours plus tard, les manifestants seront plus nombreux. Les policiers aussi, d'ailleurs.
La vidéo d'une voiture de police en train de brûler archi-populaire sur Facebook. Au fond, l'arme de la jeunesse en Tunisie, c'est son téléphone portable, Christophe Cotteret.
Alors, c'est un outil redoutable à ce moment-là, parce que on peut médiatiser. Ce qu'on évoquait tout de suite, c'est qu'en 2008... un des problèmes, c'est qu'une grande partie des Tunisiens n'étaient pas au courant de ces événements-là. Et l'opinion internationale n'était pas au courant. Au-delà des cercles militants, Amnesty International et les droits de l'homme, tout le monde ignorait. Ça a été découvert un petit peu, parce qu'on en parlait plus librement après la chute de Ben Ali, mais il a fallu encore un an pour comprendre ce qui s'était passé, et encore pas dans les détails. La grande différence, c'est que il y a eu en 2010 une lutte contre la censure sur Internet, qui a été initiée par ce qu'on a appelé les blogueurs, qui en fait sont des activistes, qui utilisent un outil particulièrement, mais c'est avant tout des activistes. Et là, le téléphone portable a eu un rôle important, c'est-à-dire qu'on très compliqué d'avoir une caméra. Déjà, ça coûte cher, et puis après, il y avait quand même la répression du régime. Le téléphone, c'est très simple, on filme, et ça donne des images. Et ces images, qui sont très légères, vont directement sur Internet. Et tout à coup, se montrer en train de défier le pouvoir à un petit moment, à un endroit, pendant une manifestation, film téléphone portable posé sur Facebook, était beaucoup plus important et plus efficace en termes de contestation que d'avoir une longue tribune depuis l'étranger.
Pierre Vermeuren, Facebook, dans ses prémices de la révolution tunisienne, c'est une fin ou c'est vraiment un moyen ?
Non, c'est un moyen, d'autant plus que la police et les personnes quelque peu âgées, en tout cas technologiquement dépassées, qui dirigent la police, les instances de sécurité, le parti, la présidence, ne comprennent pas, ne sont en dehors de ça. Hein, pour elles, elles sont dans une réalité, je dirais, physique, où si on sort dans la rue, on vous donne un coup sur la tête, mais puis les choses rentrent dans l'ordre. Donc là, il y a quelque chose qui leur a échappé. En même temps, là où elles n'ont pas été très fines, bien que, comme il est dit dans le documentaire, c'était le deuxième plus censuré du monde hein, sur Internet. Donc ils étaient quand même très prudents. Mais il y avait quand même eu un précédent il y a quelques années, à la fin des années 2000, une télévision depuis l'étranger émettait une heure par jour, et les rues vidées à ce moment-là dans toute la Tunisie pour assister à ces émissions. Alors là, on était dans de grande technologie, certes numérique, mais classique de la télévision. Déjà, il y avait eu cet incendie. Et puis alors là, évidemment, les choses se sont accélérées d'une manière invisible, mais très efficace.
Les jeunes, les femmes, les chômeurs, les syndicalistes, les avocats, tous unis contre Ben Ali, tous dans le film documentaire de Christophe Cotteret, Démocratie année zéro, en avant-première sur RFI, un film comme un cri, celui de Maître Chokri Belaïd le 27 décembre 2010, dans les rues de Tunis. Chokri Belaïd crie à la boucherie. Il accuse le pouvoir de pousser les jeunes de Tunisie au suicide. Il dénonce les arrestations. Il dénonce la pauvreté. Il dénonce ceux qui s'accaparent la richesse et exploitent le peuple. Chokri Belaïd dit que le peuple de Tunisie ne se met plus à genoux.
Ce que les témoins entendaient cet après-midi-là devant le tribunal de Tunis, ce n'était pas seulement un soutien à la révolte, mais pour la première fois, une contestation ouverte de la légitimité du régime.
La révolution tunisienne est dans le film documentaire Démocratie année zéro. En avant-première sur RFI, on se retrouve avec le réalisateur Christophe Cotteret et l'historien Pierre Vermeuren, juste après les infos sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée aux origines de la révolution tunisienne, née de revendications sociales à Redeyef, dans le bassin minier de Gafsa, en 2008, la révolte est contagieuse. Du social au politique, c'est tout le sujet du film de Christophe Cotteret, Démocratie année zéro, que nous découvrons en avant-première sur RFI. Il s'appelle Abdennasser Laouini, il est avocat. Pour la première fois, il participe à la contestation ouverte du régime en pleine rue à Tunis. Il est à la tribune et implore la jeunesse. Ne vous suicidez pas, jeunes de Tunisie. On va créer l'avenir pour que vous puissiez créer le printemps de Tunisie.
Ça a été un rôle déterminant pour passer d'une révolte à titre de revendication sociale, à une révolution à titre politique qui revendique le départ de Ben Ali et son régime. Ça a été une articulation charnière de passage, de transition d'une révolte sociale à une révolution.
Quelle scène extraordinaire, Christophe Cotteret. Nous sommes en 2010 à Tunis, encore sous Ben Ali, et le débat a lieu en public. Que représente cette scène dans votre film « Démocratie année zéro » ?
Alors effectivement, on est le 27 décembre 2010 et c'est la première fois qu'on passe de... qu'il y a une contestation ouverte du régime. Je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. Vous évoquiez tout de suite la mémoire de Choukri Belaïd, effectivement, qui était un des premiers à s'élever contre l'ensemble du pouvoir. Il s'agissait plus de révolte pour... lutter pour tel ou tel sujet ou pour telle revendication. C'était tout à coup, ce pouvoir n'est plus légitime. Et là, Choukri Belaïd a été assassiné le 6 février 2013. Dans des circonstances qui restent encore obscures. Pour moi, c'était une des grandes voies de la révolution. C'était un leader d'un parti politique, c'était un avocat qui lui aussi était dans le procès des 38 à Redeyef qu'on évoquait tout à l'heure et qui, avec Abdennasser Laouini, avec d'autres, hein, c'était vraiment tous les avocats du barreau de Tunis à ce moment-là, c'est que le pouvoir est corrompu, le pouvoir n'est plus légitime. Et c'est, à ma connaissance, la première fois qu'on entend le mot « printemps » dans cette affaire.
C'est bien la question qu'on se posait avec Richard Rifounou qui réalise cette émission. Et le 31 décembre, Ben Ali décide de réprimer violemment les manifestations d'avocats à travers le pays. Peine perdue, elles recommenceront dès le lendemain et ne feront que s'amplifier jusqu'au 14 janvier. Alors Pierre Vermeuren, vous êtes historien et vous nous accompagnez dans ce flashback sur les origines de la révolution tunisienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Abdennasser Laouini lorsqu'il explique la révolution tunisienne par un grand mouvement social ? Est-ce que les Tunisiens veulent d'abord et avant tout du pain.
Oui, c'est-à-dire qu'on est allé d'abord au bout de la logique et de la répression policière. C'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans de corruption, de montée en puissance d'un appareil répressif. On le voit dans le film partout, qu'il y a une culture politique très sophistiquée, très ancienne en Tunisie, et que là, on leur vraiment... les Tunisiens avaient relativement à manger du pain, comme il avait été dit d'ailleurs de la part d'un président de la République française. Ça ne leur suffisait pas parce que ça n'est, il n'y avait pas de mots, il y avait au contraire un bâton pour accompagner le comme on dit. Et du coup, on voit que des gens, et là on a entendu des magnifiques tribuns haranguant la foule, hein, parce que ça a été la révolution des mots aussi. Et vraiment, cette révolution des mots, elle est passée par ces hommes dotés d'une très riche culture politique et qui, il faut bien se mettre dans l'imaginaire du nationalisme tunisien, sont les Bourguibas de notre temps, sont ceux qui héritent de la grande culture politique des avocats du barreau de Tunis qui avaient lutté contre le colonialisme français et contre certaines de ces frasques, notamment en 1938. Voilà, donc il y a tout un passé, si vous voulez, hein, qui ressurgit là.
Président du pays, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, au nom du peuple qui vit dans la misère, ce sont les paroles du rappeur El Général. رئيس البلاد رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاعداب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك تاك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف
فلاح ليش تهرف انسان ما تحاجبين زعمة ترضاها لبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك كالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس تعذير
رئيس البلاد شعبك بلاد بشعب تمس بلا كلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات بلاد شعبك بلاد بشعب تمس بلا كلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات
رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتي قالك فوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطه وصوني برشا عباد اللي نهايتي قال الاحلام لكن الى متى تونسي عايش
فان 2010 En Tunisie, le clip du rappeur El Général tourne clandestinement sur les téléphones et les ordinateurs de la jeunesse tunisienne. Mais Ben Ali, à qui cette chanson s'adresse directement, semble rester sourd. Pierre Vermeren, est-ce qu'il ne mesure pas ce qui se passe dans son propre pays ?
Ah non, ça c'est sûr. Non, il y a une déconnexion totale. Il y a la certitude qu'il est non pas dans la vérité, mais qu'il mène un combat soutenu au niveau international, par l'Europe, par les États-Unis, par les alliés arabes, par les voisins, que au contraire, le combat principal, c'est le combat contre le djihadisme et qu'il est chargé de maintenir l'ordre à différents niveaux, d'ailleurs aussi sur la circulation internationale, etc. Et puis c'est un homme, c'est un affairiste, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui a passé une très grande partie de sa vie à essayer de dissimuler, à sortir ses capitaux, à dissimuler sa fortune, à la répartir entre ses enfants, sa belle famille, ses beaux-fils. Voilà, donc on a un affairisme peu sophistiqué qui ne s'intéresse absolument pas à la culture et à ce que ressent son peuple.
Et un régime autoritaire, puisque la seule réponse de Ben Ali, c'est la répression. Mais comme l'expriment les témoins du film Démocratie année zéro, la violence policière ne fait plus recette. Écoutez le témoignage de l'activiste Aziz Amami.
Moi qui me croyais assez vulgaire et très vulgaire, j'ai pu rencontrer un dieu de vulgarité. Là, je me disais, ce mec, c'est un idole. Il est créatif en vulgarité. Il s'est mis à démettre sa ceinture. Il m'a dit, toi, je te prendrai par le cul, je t'exploserai le cul en trois parties, et puis il y aura mon sperme qui sort de ton nez. Non, 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 pas les deux trous de ton nez, mais les quatre trous de ton nez, parce que je percerai deux autres trous de ton nez, juste pour laisser passer le flux de sperme, etc. Moi, j'étais dans le nuage, oh putain, mais comment est-ce qu'il arrive à imaginer tout ça, ce mec ?
Pas une ville du pays qui ne s'était déjà soulevée, qui ne combattait le régime frontalement. Lundi 3 janvier, une manifestation de jeunes chômeurs est violemment réprimée à Tala. Puis le cercle de la violence allait se prolonger dans les villes voisines de Regeb et de Kasserine, où les jeunes du quartier Zourour, le plus déshérité du pays, avalant de l'alcool pur pour se donner le courage d'affronter les balles des snipers, achevaient de donner l'image d'un régime exsangue, affrontant son peuple sur tous les terrains. La nuit du 8 au 9 janvier fera plus de 50 morts. Ce Bloody Sunday est un choc pour l'opinion tunisienne et internationale. La mort du jeune Mohamed Barki donnera un visage de plus à la révolution, symbole du massacre de la jeunesse. Le 12 janvier, ils seront 40 000 à répondre à l'appel de l'UGTT de Sfax, la deuxième ville du pays. Là encore, la manifestation est réprimée dans le sang. Ben Ali est acculé. Ses forces de sécurité savent qu'elles ne peuvent plus contenir l'insurrection trop massive. Le soir même, le ministre de l'Intérieur est remplacé. Le lendemain, Ben Ali allait tenter une dernière et bien vaine manœuvre.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayoua al-Sha'ab al-Tounsi. Nkallamkoum al-Yawm. Nkallamkoum al-Kul. Fi Tounis wa kharj Tounis.
Le 13 janvier 2011, Ben Ali sort du silence et parle à la télévision dans la langue de tous les Tunisiens et de toutes les Tunisiennes, dit-il. Pierre Vermeren, que signifie ce choix ?
Acculé par la révolution, les manifestations, il commençait à être un peu désigné du doigt dans le monde entier, a fortiori sur les médias internet, le président tombe le masque et arrête la langue de bois habituelle de tous les régimes arabes quand ils s'adressent à leur peuple, c'est-à-dire de parler en arabe classique, en arabe littéraire, qui n'est connu que par une minorité de la population, qui n'est pas parlé surtout concrètement, et il parle en tunisien. Alors là, on l'entend un petit peu au début, mais ça continue. Et là, c'est un choc, parce que finalement, ça dit la fin. Hein. C'est-à-dire qu'on tombe les masques, on tombe la forme, on tombe... Et là, on essaye de séduire le peuple, de se faire comprendre. Pour la première fois, deux jours avant de partir, il essaye de se faire comprendre de son peuple, mais c'est trop tard.
Christophe Cotteret, comment ce discours est-il interprété par les jeunes activistes de la Révolution que vous avez rencontrés?
Et ce qui est drôle, si je puis utiliser ce terme, c'est à ce moment-là, c'est qu'il y a les... ceux qui soutiennent Ben Ali, qui vont manifester, klaxonner en disant « c'est formidable, vive le président », et puis ceux qui ont compris effectivement exactement ce que rappelait Pierre Vermeeren tout de suite, c'est que non, il a parlé en arabe dialectal. Et ça, le fait de parler arabe dialectal, c'est qu'il cède, c'est qu'il est... C'est fini. Et surtout, avec une partie effectivement des activistes... contrairement à certains partis politiques ce soir-là, comprend que Ben Ali ne tiendra pas forcément ses promesses. Donc il essaie de reprendre la main, mais il ne tiendra pas forcément ses promesses. Il n'y a aucune garantie à ce moment-là. Donc il faut continuer. Et là, je pense qu'une partie du pays, parce que s'il y a eu les balles réelles depuis 15 jours, a décidé de continuer avec un face-à-face... très clairement, à ce moment-là, en faveur de la rue.
Et le 14 janvier, justement, de plus en plus de familles sont dans la rue.
Le 14, c'était surréaliste. Quand j'ai vu des flux de militants, d'étudiants, d'internautes, et qui étaient en colère noire. Puis j'ai vu les fils de quartier qui arrivaient, encore plus déterminés que les autres. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas commencé avec des slogans petit à petit comme les autres. Non, ils sont arrivés avec un seul slogan. Dégage, dégage, dégage. Ils étaient déterminés. Je suis que c'était fini.
Plus possible de vivre sous Ben Ali. C'est ce que se disait aussi la jeunesse de la banlieue du Kram à Tunis, qui ce soir-là, à quelques centaines de mètres du palais présidentiel, allait essuyer les tirs des snipers.
Ouais, ils arrivent là. C'est la contre-attaque.
Et cette nuit-là, les pavés des rues du Kram et les dalles de carrelage de l'hôpital Sidi Daoued pourraient témoigner de la brutalité des dernières heures du régime.
Le 14 janvier au soir, c'est couvre-feu. Christophe Cotteret, vous avez choisi de montrer cette image qui a fait le tour du monde. Nous sommes avenue Bourguiba à Tunis, l'avocat Abdennasser Laouani célèbre la Tunisie libre et les Tunisiens morts pour la libérer. Ben Ali a fui le peuple tunisien. Ben Ali s'est enfui, hurle Abdennasser Laouani. Une image incroyable, Pierre Vermeeren. Je vous vois réagir très très vivement.
Ah oui, parce que si vous voulez, c'est le troisième documentaire que je vois sur la révolution tunisienne et ça donne toujours des images et des personnages extraordinaires parce que c'est la première fois au fond qu'une révolution est filmée sous toutes les coutures, j'allais dire, et qu'on a ces visages, ces noms, ces harangues. Et il y a une colère qui a été contenue pendant des décennies et qui tout d'un coup explose. Et là, elle explose dans les rues de Tunis, la nuit, alors que il y a le couvre-feu, il y a des forces de l'ordre loin, il y a quelques personnages, et il est seul cet homme, et il hurle au cœur de l'avenue Bourguiba, qui d'habitude est un véritable bazar automobile ambulant, et c'est assez fascinant.
Christophe Cotteret, est-ce que c'est encore une image filmée avec un téléphone portable?
Je crois que c'est une petite caméra. Ça n'a pas été filmé au téléphone, non, mais par une petite caméra. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de fête, personne n'a fêté. Très vite, il y a eu les jours qui ont suivi d'autres problèmes politiques se posaient. Mais à un moment, l'intervention d'Abdennasser Laouani, effectivement, sur cette avenue vide, il y a des snipers sur les toits, bon, qui ont ordre de ne pas intervenir, hein, de ne pas tirer. Mais la ville est complètement sous contrôle. Ça fait pleurer toute la Tunisie à ce moment-là, et bien au-delà.
Abdennasser Laouani est un homme libre, mais un homme seul. C'est une image forte du peuple tunisien le 14 janvier. Une solitude dénoncée par Daniel Cohn-Bendit, à l'époque député du groupe des Verts au Parlement européen.
La peur, c'est dès qu'il y a un soulèvement dans les pays comme la Tunisie, est-ce que ça va pas être la prise de pouvoir des intégristes. C'est toujours le même débat. Et c'est pour cela que, disons, je me suis opposé directement et à cette thèse, c'est-à-dire que on ne peut pas bloquer l'histoire au nom de l'incertitude sur comment l'histoire va se terminer, ce qui est complètement aberrant. Sinon, on n'aura pas eu le droit de commencer la Révolution française.
J'aurais aimé que ce Parlement soit à la hauteur de la fierté des Tunisiens qui ont su abattre le dictateur Ben Ali. Chers collègues, le dictateur est tombé, mais la dictature, la structure de la dictature existe toujours en Tunisie. Et aujourd'hui, il faut faire très attention. Des gouvernements européens, la majorité de ce Parlement ont pendant des années soutenu la structure de la dictature et le dictateur tunisien. Encore la semaine dernière, la majorité des groupes refusait un débat sur la Tunisie et refusait une condamnation de Ben Ali.
Pierre Vermeuren, je vous laisse commenter. Vous êtes historien, vous connaissez l'histoire longue des relations entre la France et la Tunisie.
Oui, Cohn-Bendit a raison ici de souligner la contradiction. Ça a été la douche froide, si vous voulez, parce que Ben Ali, c'est, personne ne pensait que c'était vraiment un ami, mais tout le monde pensait que son régime était au fond la voie de la modernité, du progrès et de la paix pour la Tunisie. Bon, le voile s'est déchiré en quelques minutes, et là, il y a un effet de sidération pendant lequel il s'exprime. Mais moi, ce que je retiens, et ce à quoi il faut penser pour la suite, nous tous, c'est que aux portes de l'Europe, avec tous les moyens technologiques nécessaires, on les voit, puisque tout a été filmé, enregistré au fur et à mesure. On a réussi jusqu'au pratiquement 14 janvier au matin en France et en Europe et dans le monde à ignorer ce qui se passait. Hein, c'est dire qu'au fond, on dit toujours que la modernité technologique, la circulation de l'information, c'est formidable, on sait tout, mais on ne sait pas tout parce que les pouvoirs et les systèmes politiques ont la capacité d'une rétention exceptionnelle de l'information.
D'où la nécessité du film de Christophe Cotteret-Picure de rappel sur la façon dont s'est déroulée cette révolution tunisienne. Non seulement Christophe Cotteret nous fait partager cette révolution, mais aussi le chantier post-révolutionnaire, d'où le titre de son film « Démocratie année zéro ».
Les partis politiques ont fini leur travail historique.
Gilbert Nakache, opposant historique à Bourguiba.
Ils ne devraient plus exister sous la forme qu'ils ont maintenant. Il faut inventer maintenant une organisation politique, une structuration de gens qui se mettent au service de la société civile, qui mettent l'État au service de la société civile, et non pas qui mettent l'État au service d'une partie de la société pour permettre sa domination sur la société civile.
Alors ce printemps tunisien, c'est aussi un printemps des partis, Christophe Cotteret, plus de 100 partis qui éclosent finalement en Tunisie.
Ça paraît beaucoup dit comme ça, 100 partis, mais en fait c'est pas... tellement, c'est beaucoup moins que l'Espagne d'après Franco, c'est beaucoup moins que dans d'autres si on veut comparer. Donc c'est effectivement chacun s'exprime, toutes les sensibilités s'expriment.
Il faut inventer
et puis il y avait surtout besoin de parler. La rétention de la parole avait duré quand même politiquement pendant 50 ans. Donc c'est là où c'est important, il faut que chacun s'exprime dans ses sensibilités. Et puis les élections allaient amener très rapidement, permettre de dégager les lignes de force et les principaux partis.
Et c'est aussi une remise en question des vieux partis comme le Parti communiste.
L'inépuisable Rama Hamami, leader du PECOT, l'homme qui avait été pendant 23 ans l'ennemi numéro 1 de Ben Ali, sa bête noire, prenait désormais la parole sans avoir à se cacher. La plus grande difficulté qui s'annonçait alors pour le Parti communiste était de réussir sa mutation d'un foyer de résistance en une force démocratique. Mais pour ce parti, qui avait plus que tout autre dans le pays lutté pour la liberté et la démocratie, se revendiquer staliniste pouvait, dans la Tunisie du XXIe siècle, s'avérer être d'une naïveté fatale face à de proches et redoutables adversaires.
Et pour le parti islamiste Ennahda, né officiellement en 1981 dans l'illégalité, c'est une forme d'avènement. Écoutez s'exprimer son leader Rached Hanouchi au lendemain du départ de Ben Ali.
Pourquoi le peuple aime Ennahda ? Parce qu'Ennahda est le parti qui a le plus souffert de l'injustice de l'ancien régime. Les gens compatissent avec les opprimés. Ils mettent en eux leurs espoirs. Nous sommes un des seuls partis qui n'a jamais eu de relation avec Ben Ali. Les gens ne peuvent pas compter sur ceux qui ont vécu et travaillé avec Ben Ali. Mais ils comptent au contraire sur les victimes de Ben Ali. Elles seules peuvent sauver le pays. Et puis An-Nahda porte un discours proche du cœur des gens, proche de l'identité, proche de la religion. Un discours qui fait le lien entre la religion et la vie, entre la religion et la justice, entre la religion et la démocratie. Les gens veulent la justice, la démocratie, mais dans le cadre de leurs valeurs et de leur religion.
La voix du leader d'An-Nahda enregistrée en 2011, extrait du film « Démocratie année zéro » dans la marche du monde. Pierre Vermeren, comment le parti An-Nahda est-il fait pour rester structuré, pour être présent partout en Tunisie sous Ben Ali, alors qu'il était interdit et persécuté comme les autres ?
Oui, comme les autres, peut-être plus, pas à certains côtés. Bah, écoutez, c'est une organisation politique internationale, les Frères musulmans, qui est très ancienne, qui a du métier. Et puis Ranouchi et les autres, ils étaient à Londres, ils étaient à l'étranger. Ils ont toujours eu des relais parce que la mosquée a toujours été un moyen finalement pour eux de se rencontrer et de rester en contact, de circuler d'une manière relativement légitime.
Bon, donc ils réactivent des réseaux qui
oui,
sont là.
Bien sûr, les réseaux étaient là. Il faut dire que Ranouchi, c'est probablement le frère musulman le plus intelligent du monde. Hein. Donc c'est un haut tacticien politique. C'est quelqu'un à qui finalement le succès d'An-Nahda doit beaucoup. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les frères musulmans sont dans les pays révolutionnaires? Il n'y a qu'eux qui y demeurent. Hein. Il y a An-Nahda partout ailleurs. Ils ont été détruits parce que justement on a affaire à un fort tacticien. Et cette politique qu'on a vue tout à l'heure chez les syndicalistes ou chez Hamami ou chez tant d'autres ou chez les avocats, on la retrouve aussi chez Ranouchi. Hein. Donc la Tunisie, c'est de ce point de vue-là, particulier et très efficace d'une certaine manière.
Christophe Cotteret, votre film se termine sur les premières élections libres tunisiennes le 23 octobre 2011. On vous écoute.
Il faisait beau ce dimanche 23 octobre 2011. L'automne ressemblait à une douce fin d'été. Les Tunisiens participaient au premier vote libre de leur histoire, peut-être aussi les premières élections vraiment démocratiques du monde arabe contemporain. Il régnait un mélange subtil de calme, d'angoisse et d'exaltation. Le résultat du vote, c'était l'autre, celui qui n'avait pas voté comme nous, que chaque Tunisien allait découvrir. Finalement, elle ressemblait à quoi, cette Tunisie que Ben Ali avait masquée, et d'abord à elle-même, pendant tant d'années. Le monde entier avait les yeux rivés sur Tunis ce jour-là.
Et ce jour-là, c'est le 23 octobre 2011, une journée particulière qui fait date dans l'histoire de la Tunisie et dans l'histoire du Maghreb. On voit sur vos images, Christophe Cotteret, les Tunisiens vous montrer leurs doigts.
Ils se trempaient dans de l'encre indélébile.
Mais ils sont très contents de montrer leurs doigts, d'encre noire.
Vous voyez ceux qui allaient voter de cette manière, effectivement, et puis c'était une première. C'était très émouvant ce jour-là.
Pierre Vermeren, quelle est la singularité de la révolution tunisienne? Pour quelles raisons un système démocratique semble pouvoir se construire et fonctionner en Tunisie?
Bon, je n'y répondrai pas en deux minutes, hein, même en dix.
Il vous reste 30 secondes.
L'originalité, c'est que c'est la première révolution démocratique dans l'ensemble du monde arabe qui est menée à bien. Parce qu'au fond, les combats de la décolonisation, ils avaient une dimension démocratique, mais ils ont été tout de suite récupérés par les élites qui voulaient récupérer le pouvoir d'État. Donc là, on a une révolution sans leader, sans parti au départ, qui est vraiment une dimension populaire, même si on l'a vu, elle est organisée politiquement et syndicalement.
On a vu qu'elle venait d'une longue tradition, notamment syndicaliste.
Absolument. Et vous savez que ce week-end, ce sont les élections législatives qui vont installer la seconde république de Tunisie. Bah oui, l'originalité, donc, cette fois-ci, c'est que le processus non seulement n'a pas dérapé, mais qu'il est en train de se transformer en une réelle démocratisation politique. Et ça, c'est quelque chose qui va être très long, mais qui est tout à fait et remarquablement porteur d'espoir.
Merci Pierre Vermeren. Je recommande votre livre d'édition « Les Cavaliers Bleus, idées reçues sur le monde arabe ». Et merci Christophe Cotteret. Je rappelle que votre documentaire « Démocratie année zéro » sort mercredi prochain dans les cinémas français et que votre nouveau film « An-Nahda, une histoire tunisienne » est diffusé mardi 4 novembre à 22h25 sur la chaîne européenne Arte. Ma parole est libre, chante Amel Matlouti pendant la révolution tunisienne, dont nous avons essayé aujourd'hui de retrouver les origines. Tunisie, aux origines de la Révolution, c'était une marche du monde réalisée par Richard Rifono. Une émission à laquelle vous pouvez réagir sur Facebook, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à la podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.
أنا روح المانس.